Ses meilleurs vœux pour ceux que j'ai pas encore, à qui je n'ai pas encore l'occasion de les souhaiter. Alors, j'ai amené ce petit accessoire, ça c'est mon exemplaire de GEM 2 personnel. Comme vous voyez, je n'ai pas la capacité d'Étienne à citer chaque chant avec son numéro en face, il y a des petits onglets autocollants dedans qui me permettent de les retrouver plus facilement pour jouer. Alors, le premier à avoir fait ça, c'est un chrétien, évidemment, c'est Arthur Fry, si je ne dis pas de bêtises, oui, ingénieur de son état, qui en 74, Arthur Fry, il était chef de chœur pour une assemblée presbytérienne aux États-Unis, et il en avait assez que ces petits onglets tombent de son livre de chant, et il a eu l'idée d'enduire de colle ces petits onglets d'une colle qu'avait inventée un de ses collègues, Spencer Silver, quelques années auparavant, pour que ces onglets ne tombent plus. Alors, c'est comme ça qu'est né le post-it. Post-it, c'est une histoire vraie, hein, donc 1974, succès mondial. Pourtant, le plan de Spencer Silver, c'était pas tout à fait ça. Il avait été recruté en tant qu'ingénieur par la société 3M pour inventer un adhésif ultra puissant. A raté. Il a découvert un adhésif qui colle presque pas. Et pour autant, malgré cet échec, quelques années après, la société a réussi à faire un succès mondial de cette découverte. Alors, la Bible regorge de plans ainsi contrecarrés, mais qui, au final, concourent à un plan bien plus grand, le plan de Dieu. Et c'est un événement comme celui-ci que l'on va voir aujourd'hui à travers le texte, donc dans la continuité de la prédication de la semaine dernière. Et nous allons lire Genèse, chapitre 29, versets 13 à 30. Je la lirai dans la version second 21. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban, puis ce dernier lui dit « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Alors, une histoire de tromperie, une histoire de trahison. Mais nous sommes bien là face à un événement qui s'inscrit dans le merveilleux plan de Dieu pour notre rédemption. À travers ces événements, je souhaiterais mettre en lumière une affirmation. Tandis que nous poursuivons un but, Dieu poursuit son plan. Les épreuves n'en sont que des étapes. Je répète, tandis que nous poursuivons un but, Dieu poursuit son plan. Les épreuves n'en sont que des étapes. Alors, afin d'éclairer cette affirmation, je vous propose de détailler ce texte en cherchant tout d'abord à comprendre dans le contexte dans lequel se sont déroulés ces faits, puis détailler les actes, les motivations de ces différents protagonismes pour enfin s'intéresser aux enseignements de ce texte pour nos vies aujourd'hui. Alors, tout le contexte tout d'abord. Nous sommes à Padan Aram, dans le sud de la Turquie actuelle, à la frontière syrienne. C'est une région riche qui est à la source de deux fleuves majeurs de la région, que sont le Tigre et l'Euphrate. Nous y retrouvons Jacob, qui a fui à quelques 900 000 km de son point de départ, Beersheba, dans le sud de l'Israël actuel. Alors, nous l'avons vu dimanche dernier, Jacob a de quoi être heureux. Il se sait béni par l'Éternel. Genèse 28, verset 13, « L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle, si vous vous rappelez, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. » Puis un peu plus loin, dans le verset 15, « Je suis moi-même avec toi. » Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Imaginez un instant avoir le même rêve que Jacob. Imaginez que Dieu vous parle en personne, ce que je te dis à toi. Dans quel état d'esprit spirituel seriez-vous ? Vous seriez reboosté, vous sentiriez invincible. Insistons sur ce point, Jacob vis-à-vis de Dieu est sous serment. L'Éternel sera mon Dieu, c'est ce qu'il a affirmé. Et Jacob poursuit un objectif à long terme. Il veut revenir chez son père et il sait que cet objectif est agréé par Dieu. Mais ça, c'est un objectif à long terme. Jacob, il doit aussi se préoccuper de sa situation immédiate. Jacob, il vient d'arriver à Padan Aram, il a fait connaissance de sa famille, il est très bien accueilli, son oncle l'embrasse quand il arrive, mais comprenons que Jacob est dans une position de faiblesse. Tout d'abord, il est en fuite, il a trompé son père en utilisant sa cécité, il a trahi son frère, et donc il est en fuite, il est sous la menace de mort de son frère. Position de faiblesse enfin, car il ne connaît personne, à part son oncle qu'il découvre pour la première fois. Il ne connaît pas les coutumes locales non plus, en particulier celles qui concernent le mariage. Ça ne devrait pas l'inquiéter pour le moment, mais en réalité, ça va rapidement lui poser un problème. Après son arrivée, Jacob demeure chez son oncle et rapidement, il tombe amoureux de sa jeune cousine Rachel. Alors, ça va lui poser un problème, donc ça soit sa cousine, autre temps, autre mœurs, mais il sait qu'un prétendant doit pouvoir apporter une dot à la famille, c'est-à-dire une compensation financière pour la perte d'une fille. Alors, notez que c'est l'inverse de ce qui se pratiquait il y a quelques décennies chez nous, c'est le mari qui apporte une compensation financière. Laban avait deux filles, Léa, et l'aînée, et la cadette, Rachel. Il est intéressant de s'attarder sur la description du texte qui nous est fait. Le texte nous dit que Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle en tout point de vue. C'est un point important, car outre le fait qu'on comprend que Léa était loin d'être aussi belle que sa sœur, elle souffrait d'un handicap. Cécité partielle, myopie, on n'en sait rien. Mais il faut bien comprendre qu'au temps des patriarches, ce genre de handicap était particulièrement grave. Alors, outre le fait qu'il était certainement au moins aussi compliqué d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo qu'aujourd'hui, ça interdisait surtout à Léa de faire de nombreux travaux que les femmes réalisaient à l'époque. Ainsi, il était certain que Léa allait éprouver toutes les peines du monde à trouver un mari. Et elle devait déjà être considérée comme une charge pour sa famille. Dernier point, Jacob n'étant pas esclave, son oncle lui propose de le payer pour le travail qu'il fournit. Comme il a des vues sur Rachel, Jacob croit avoir une idée de génie. Il lui propose de travailler 7 ans pour obtenir la main de Rachel. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Son plan va tourner court. Et c'est ce que nous allons voir dans un deuxième temps. Donc Jacob fait une proposition très généreuse à Laban pour être sûr qu'il ne la refuse pas. Travailler 7 ans. Son oncle accepte en se gardant bien de lui préciser un petit point de détail concernant les coutumes locales. Les filles se marient dans l'ordre de naissance. Ainsi, Jacob travaille pour Laban pendant 7 ans. Mais nous avons un verset clé dans le texte, le verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Arrive enfin le moment tant attendu. Jacob va voir son oncle, lui demande sa femme, après avoir passé 7 ans à travailler pour elle. Imaginez sa motivation, imaginez l'énergie qu'il a pu dépenser, imaginez les travaux qu'il a faits tout en côtoyant quasiment quotidiennement celle qu'il espérait. Alors Laban organise les festivités, seulement, au moment de la nuit de noces, Laban substitue sa fille aînée à sa fille cadette. Au réveil, Jacob découvre qu'il a été trompé. Jacob découvre, à ce moment-là, ce que ça fait d'être trahi, ce que ça fait d'être trompé par une personne de confiance, d'être trompé par un membre de sa famille. Alors, il s'emporte. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Il rappelle les termes du contrat. « N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pour toi ?» Mais il est coincé. Le mariage est consommé. Il est engagé vis-à-vis de Léa. Il a été trompé. C'est peut-être à ce moment-là qu'il comprend les conséquences de la tromperie. Et juste à ce moment-là, Laban choisit de lui asséner le coup de grâce. Puisque c'est Rachel que tu veux, tu peux l'avoir. D'abord, tu passes une semaine avec Léa, et ensuite tu pourras l'avoir. Mais tu t'engages à nouveau pour 7 ans à mon service. Excusez-moi. Fausse manip. Que fait Jacob à ce moment-là ? Il accepte. Attardons-nous quelques instants sur les différents protagonistes de cette histoire. Laban, tout d'abord. Voilà un homme qui a élevé la fourberie au rang de discipline. Il voit arriver son neveu qui a entrepris un voyage périlleux pour fuir la situation dans laquelle il s'est mis tout seul. Il l'accueille à bras ouverts, mais rapidement, voyant son attachement à sa fille cadette, il ourdit un plan qui va lui permettre de se débarrasser d'un problème de taille. Une fille aînée impossible à marier. Ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait que pendant les 7 premières années où Jacob travaille, Léa effectivement ne trouve pas de mari. Pendant 7 ans, Laban exploite la situation de faiblesse de son neveu. Et il engage, c'est une personne rusée parce que il l'engage à nouveau, une fois son plan exécuté, il l'engage à nouveau pour 7 ans supplémentaires. Dans les mains de Dieu, si on prend un peu de recul, dans les mains de Dieu, Laban a été un formidable instrument pour apprendre l'humilité à Jacob, pour lui faire comprendre les conséquences de la tromperie et les vertus de la patience. Attachons-nous maintenant à Léa. Nous voilà face à une jeune fille, aînée de sa fratrie, mais qui semble souffrir d'un handicap. Elle est donc une charge pour sa famille. Il est probable qu'on lui fasse ressentir depuis son enfance. Imaginez cette souffrance que peut être la sienne, de se sentir inutile. Imaginez les sentiments qu'elle peut nourrir face à cette situation, de la jalousie, de l'amertume face à sa sœur, qui au contraire, elle, semble avoir été bénie. De la tristesse aussi de voir qu'un homme peut s'engager 7 ans pour sa sœur alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune attention. Alors, on ne sait pas si c'est par complicité ou par soumission qu'elle se soumet à la tromperie qu'organise son père. Mais il faut la comprendre. Cette tromperie va la sortir de sa condition. Et effectivement, elle est mariée à Jacob. Mais ce bonheur va être de courte durée. Parce qu'une semaine plus tard, sa sœur rejoint le foyer et prend la place de favorite. Le texte nous dit « Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. » Et du côté de Rachel, voilà une jeune fille qui voit un prétendant tellement attaché à elle qu'il peut se charger de 7 ans de travail. 7 ans à attendre son fiancé, 7 ans à attendre pour s'unir à lui, 7 ans à attendre pour fonder une famille. Et imaginez son sentiment lorsque son père, d'une décision non négociable, la remplace par sa sœur aînée. Un plan de 7 ans balayé en quelques secondes. Par contre, pour elle, ce revers va être de courte durée, puisqu'elle peut épouser Jacob 7 jours plus tard, mais à condition que celui-ci s'engage à nouveau pour 7 ans pour elle. Quelle fierté, quelle gratitude chez elle, au moins on peut l'espérer, de voir un homme aussi engagé vers elle. Et du côté de Jacob, voilà un homme qui montre pour le moins un engagement sans pareil dans ses entreprises. Rappelons qu'il se sait béni et protégé par Dieu. Jacob a un but, revenir dans la maison de son père avec honneur. Et Dieu lui a promis que ça lui arrivera. Il a une chance exceptionnelle, il sait qu'il s'inscrit dans le plan de Dieu. Mais Jacob pense que pour pouvoir accomplir ce plan, il doit d'abord sortir de sa condition de fugitif. Il doit d'abord fonder une famille, trouver une femme et se constituer un patrimoine. C'est probablement aussi un homme qui ressent de la culpabilité par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé. C'est un homme qui ressent aussi une blessure profonde d'avoir trahi son père, d'avoir trompé son frère. Motivé par la perspective de son mariage avec Rachel, Jacob s'engage pour 7 ans, mais ces 7 années lui paraissent comme quelques jours. Il est sur un petit nuage. Imaginons, dans ce cas, la brutalité de la descente lorsqu'il découvre qu'à ses côtés, c'est Léa qui est allongée, et pas Rachel. Mais le plus intéressant concernant Jacob, c'est sa réaction. Pas tant la réaction de colère qu'il a dans un premier temps, qui est somme toute assez naturelle, mais c'est plutôt son face à ce que lui propose Laban, il accepte. Non seulement il accepte, mais il se soumet. Après tout, il a été trompé. Une fois qu'il a épousé Rachel, qu'est-ce qui l'empêcherait de se sauver ? Non, il respecte la parole donnée. Sa rencontre avec Dieu a profondément changé cet homme. Et c'est justement dans cette dernière partie, je souhaiterais qu'on s'attarde sur les conséquences de ce texte pour nos vies. Nous voyons donc un homme, Jacob, qui, par les épreuves qu'il traverse, apprend l'humilité. Et par sa rencontre avec Dieu, apprend la sagesse et la persévérance. Rappelez-vous mon affirmation. Tandis que nous poursuivons un but, Dieu poursuit son plan. Les épreuves n'en sont que des étapes. Tandis que Jacob se cherchait une femme, Dieu se construisait un peuple. Que pouvons-nous retenir de ce texte ? Le premier des enseignements est qu'il est impossible de saisir, de contraindre ou de dériver le plan de Dieu. En effet, le plan de Jacob pour lui-même, c'était Rachel. Il a œuvré pour cela. Il s'est investi avec passion. Le plan de Laban pour Jacob, c'était Léa, c'était pas Rachel. Et il a habilement manœuvré, il a trompé Jacob pour parvenir à ses fins. Mais le plan de Dieu pour Jacob, c'était Léa et Rachel. C'était même Léa, Rachel, Zilpa et Bilha, les servantes respectives de Léa et Rachel. Je ne ferai aucun commentaire sur la polygamie. À elles quatre, elles donneront 12 fils à Jacob, les 12 fondateurs des tribus d'Israël qui structureront la société juive pour les millénaires à venir. Ce que nous attendons, ce que nous projetons est rarement ce que projette Dieu pour nous. Nous devons accepter que Dieu contrecarre nos plans. Nous devons accepter qu'il est le maître absolu de nos vies. Il y a 25 ans, il y avait un étudiant qui affirmait haut et fort qu'il trouvait quand même bien naïf les gens qui croyaient en l'histoire d'Adam et Ève, alors que lui-même n'avait jamais ouvert une Bible de sa vie. 25 ans plus tard, cet étudiant, avec quelques rides en plus, a l'honneur de servir le Seigneur et de vous servir en prêchant aujourd'hui devant vous sur le texte de la Genèse. Imaginez les étapes du plan de Dieu pour ma vie, qui m'ont conduit de cette situation à celle qui est la mienne aujourd'hui. Même notre Seigneur Jésus-Christ s'est incliné devant le plan du Père en affirmant dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 6, verset 39, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous apprenons également par ce texte que nos fautes peuvent nous retomber dessus. Non que Dieu se venge de nous, non qu'il ne punit de nos fautes par des épreuves qu'il nous envoie. Ça, c'était une phrase que prononçait parfois mon arrière-grand-mère. Quand j'étais petit, que je faisais des bêtises et que peu de temps après, il m'arrivait un avatar, une chute, une blessure, je l'entends encore me dire « ça, c'est le bon Dieu qui t'a puni ». Notez la jolie oxymore et puis toute l'ironie qu'il peut y avoir dans cette phrase. Non, le Seigneur jugera avec justice, mais le Seigneur ne trompe pas, le Seigneur ne tente pas. Par contre, le Seigneur fait avec les imperfections des créatures qu'il aime par-dessus tout. Il transforme nos faiblesses en force, nos égarements en circonstances favorables pour l'accomplissement de son plan. Dieu est souverain dans ses décisions. Le second enseignement de ce texte nous renvoie à notre propre relation avec Christ. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Nous espérons tous brûler d'une telle flamme pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions tous nous engager avec une telle ardeur pour notre Seigneur. C'est le cas pour la plupart d'entre nous et c'est une réjouissance. Mais que cet engagement soit quelque chose, somme toute, de tout naturel. Sachons également nous replonger dans la parole lorsque nous sommes assaillis par les épreuves. Facile à dire, lorsque nous sommes frappés durement, cruellement, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons meurtris. Prions, mes frères, les uns pour les autres. Soutenons-nous par des paroles d'encouragement, par des prières ou par des actions en fonction des dons qui nous ont été accordés. apportons du réconfort à ceux de nos frères qui souffrent. Malgré les épreuves, sachons garder les yeux rivés sur l'objectif. Les blessures ouvertes, les rancœurs, le désir de vengeance nous empêchent de voir avec le regard d'amour que Jésus-Christ a porté sur nous. Dans l'épreuve, victime de tromperies, de trahisons, sachons garder le cap, faire preuve de loyauté dans nos engagements et garder les yeux rivés sur la croix de notre Seigneur. Troisième enseignement que je tire de ce texte, c'est d'être capable de se fixer des objectifs. Jacob a un objectif à court terme, tout est relatif, le mariage avec Rachel. Mais il a également un objectif à long terme, revenir avec honneur dans le pays de son père. Et c'est un objectif qui est dans le plan de Dieu. Je vous laisse une image. Pour un pilote d'avion, la phase la plus délicate, c'est l'atterrissage. C'est celle pour laquelle il s'entraîne le plus. Et lorsqu'il est en phase finale, c'est-à-dire à l'approche de la piste, le pilote se fixe toujours deux points. Un point de visée, situé très en amont du début de la piste, et un point d'aboutissement qui est là où il posera effectivement ses roues. Pendant toute sa descente, le pilote ne quittera jamais son point de visée et jettera un œil sur son point d'aboutissement. Toute personne assise à côté du pilote peut avoir l'impression qu'il est en train de se tromper et qu'on va finir au milieu des moutons qui sont en train de pécer tranquillement devant la piste. Mais en fait, le pilote sait que quelles que soient les circonstances, les coups de vent, les échanges thermiques, les mouvements d'assiette de l'avion, il ne doit pas quitter ces deux points. Et c'est au tout dernier moment qu'il quitte son point de visée pour finalement prendre son point d'aboutissement. S'il ne le fait pas ça, il risque de rater la piste, il risque de rater son objectif. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous fixer des objectifs à court terme pour renforcer, pour magnifier, pour développer notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit la lecture quotidienne de la parole, son étude régulière, ou que ça soit pour l'engagement, pour notre Église, pour son Église, on a cruellement besoin de vous. Que nous puissions brûler d'un feu ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ, et que ses engagements nous paraissent quelque chose de très léger. Mais nous ne devons jamais quitter notre deuxième point. C'est l'aboutissement, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre rédemption, c'est notre accueil au sein de son royaume. En conclusion, je souhaite que nous puissions nous souvenir que notre Seigneur Dieu est souverain. Il est souverain dans l'accomplissement de son plan. Soumettons-nous à cette souveraineté. Soutenons nos frères qui sont dans l'épreuve et fixons-nous des objectifs pour renforcer notre relation avec notre Seigneur. Puissions-nous remettre toutes nos entreprises entre ses mains, que ces entreprises soient pour l'amélioration de notre relation avec lui ou que ces entreprises soient consacrées à notre vie sur cette terre. Je vous laisse ces quelques versets. Psaume 91, versets 1 à 6. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Tandis que nous poursuivons un but, Dieu poursuit son plan. Les épreuves n'en sont que des étapes. Notre Seigneur poursuit son plan merveilleux pour notre rédemption acquise à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui Seigneur, merci pour cette relation que tu as établie avec nous. Merci pour tes promesses. Seigneur, je veux me soumettre à ton plan. Tu es souverain. Ce que je projette n'est pas ce que tu projettes pour moi. Et je veux me soumettre à ta volonté, Seigneur. Use de moi, envoie ton esprit. Use de nous pour accomplir ton plan merveilleux, ton plan de rédemption pour tous les hommes. Seigneur, merci pour la croix de Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle que tu nous promets et que tu es en train de nous acquérir par ton plan. Dans le nom de ton Fils. Amen.